Aujourd'hui, 22 décembre 2012, quatrième conférence spirituelle de Jackie Parmentier, 19e année. Thème de cette année, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Titre de la conférence d'aujourd'hui, l'annonce de l'Évangile.
Voilà, voilà. Et donc, sur cette... l'annonce de l'Évangile. Pourquoi cette conférence à Noël, quoi. Il m'a semblé, en tout cas pour moi, que Noël était véritablement la fête de l'Évangile. Parce qu'alors on a cette phrase très particulière. Est-ce que vous vous souvenez ce que disent les anges à Noël ? Au moment de la naissance de Jésus, il y a donc les anges qui apparaissent et puis qui vont parler aux bergers. Et qu'est-ce qu'ils disent aux bergers ?
Gloire à Dieu.
Alors, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Voilà. Voilà. On va voir. Donc, l'évangile de Luc, au chapitre 2, et puis donc on verra, mais hein, ce passage de la naissance de Jésus démarre au verset 1er, et puis on a au verset 8, « Et des bergers étaient dans la région, la même ils étaient vivant dans les champs, et veillant les veilles de la nuit sur leur troupeau. Alors, un ange du Seigneur se tint devant eux, la gloire du Seigneur enveloppa de lumière, les enveloppa de lumière, et ils eurent peur d'une grande peur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, en effet, evangelizomai, je vous évangélise. C'est ça qui est formidable, hein? Evangelizomai. J'annonce une bonne nouvelle. Voilà. Donc, voilà pourquoi je choisis de le faire à Noël. Hein. On a ce terme, hein, évangile. Voilà, c'est les premiers donc de cette parabole, cette grande parabole que sont les évangiles de l'enfance. C'est d'abord les anges qui évangélisent, qui viennent, et donc, et la traduction que j'ai moi, là, hein, evangelizomai, j'annonce une bonne nouvelle. J'annonce une bonne nouvelle. Donc, voilà, hein, pourquoi, voilà, cette affaire de Noël, quoi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce Noël ? Tout ce mystère chrétien, en fait. Hein. Le mystère chrétien, c'est quoi ? Et ce qui va être l'aventure tout le temps des chrétiens, quoi. Dès que cette expérience est faite d'une rencontre et d'une expérience à la fois communautaire, d'une vie intérieure particulière, aussitôt se met en route ce « je vous annonce des bonnes nouvelles ». Et donc, il va falloir être attentif à ça, hein, de ne pas en faire quelque chose de religieux d'abord, mais c'est « je vous annonce une bonne nouvelle ». Et ça, c'est... Et donc, après coup, là, j'aime bien aller chercher dans mon gros livre de... J'ai mon gros dictionnaire de grec, là, que j'ai acheté dans une brocante pour 1 euro. Il doit être de 1898, quelque chose comme ça, mais un beau dictionnaire de grec. Et donc, quand on va regarder qu'est-ce que ça veut dire que « evangelion » ou bien « evangelizo » ou « evangelizomai », qu'est-ce que c'est que ce terme-là ? Et en fait, c'est fait de deux mots. D'abord, il n'y a pas de « v » en grec. Il n'y a que le « u ». Hein? Donc, ça fait, c'est « e », il y a le mot « e ». Et puis, à côté, il y a « angelos ». Et « e », c'est alors un mot qu'on connaît bien, c'est « heureux ». C'est « bonheur », c'est « bien », c'est un truc super, un truc qui fait du bien, quoi. C'est « bon », c'est « e ». E. Voilà, comme dans heureux. Voilà, ah ouais, c'est ça, voilà. Heureux, hein, donc on a ce E qui est c'est bon, quoi. Et puis, cette affaire du angelos. L'angelos, c'est le postier. Dans le grec ancien, c'était dans les relais de poste, là, il y avait, c'était l'angelos. Il portait les choses d'un endroit à l'autre pour apporter des nouvelles, quoi, pour apporter des nouvelles. Et là, en plus, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est ça qui est beau, hein, c'est que d'abord fondamentalement, l'aventure de ce qu'est l'Évangile et ce mystère de chrétien, de la venue de Jésus, c'est d'abord et fondamentalement une bonne nouvelle. Et la grande question, qu'est-ce que c'est qui peut être une bonne nouvelle, quoi ? Pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que c'est qui serait notre bonne nouvelle, quoi ? Pour nos vies à nous, pour nos existences, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle que nous attendons ? Et on voit que pour chaque évangéliste, pour chacun des témoins de l'évangile, ils ont leur approche de ce que c'est que la bonne nouvelle. Alors, pour moi, quand je lis Saint Jean, et on a travaillé quand on a vu Saint Jean pendant Vacances et Évangiles, il y a cette phrase du prologue de Saint Jean, si vous vous souvenez, hein, qui est vraiment le cœur, pour Jean, le cœur de ce que Jésus vient apporter. Hein, on peut le prendre dans le premier chapitre de Saint Jean. Que vous avez appris par cœur d'ailleurs, par la cantillation. Hein. Donc on avance, hein. Verset 11, donc c'est tout le début de cette grande proclamation où Jean résume ce qui est son expérience et le fondement de tout pour lui, quoi, en quelques mots. Et c'est là on va voir qu'en effet, Jean ne va pas parler du tout de la naissance de Jésus, il ne va pas parler de ce Noël, il ne va pas parler de ça. Il résume tout ça dans son prologue. Et donc, on a hein, verset 11, il vient chez lui, hein, mais les siens ne l'accueillent pas. Hein. Ça, c'est le grand mystère, quoi, de l'incroyable, quoi, de ce qui se passe pour Jésus, la manière dont il vient et puis les gens n'accueillent pas avec libéralité tout ça. Et c'est là où Jean va mettre pour lui le fondement de ce que c'est la bonne nouvelle, sa bonne nouvelle, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, c'est sûr, on sent bien que il faut avoir, là, comme toujours, les décodages, mais en tout cas, ce que ça signifie, quoi, en tout cas pour Jean, le sommet de tout ce qui va être la bonne nouvelle pour lui, c'est d'enfin être les enfants de Dieu. D'être les enfants de Dieu. Alors pour certains d'entre nous, c'est compliqué parce que nous avons tous été des enfants, et pas forcément des enfants heureux, des enfants qui ont vécu. Et donc cette espèce d'association de nos expériences d'enfance qui se mêlent avec un Dieu, avec les images qu'on peut avoir d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu qui surveille, d'un Dieu qui... etc. Ce qui fait que cette, ce lieu qui, pour certains, et pour Jean, est le lieu même de la bonne nouvelle, pour certains, devenir enfant de Dieu, c'est pas forcément la gloire, quoi. C'est pas forcément la gloire. Donc, mais c'est là, hein, pour en tout cas, cette espèce de grand élan pour Jean, le fondement, Dieu, Dieu créateur, Dieu qui donne sa vie, et quel enfant de Dieu ça va être, hein, et c'est là où ça va nous être révélé dans l'Évangile. C'est quoi d'être enfant de Dieu? Eh bien, nous allons en voir un. Et c'est ça que Jean va dire. Nous en avons vu un d'enfant de Dieu. C'est le Christ. Voilà, nous avons vu. Et ça, et nous pouvons devenir celui que nous accueillons. Il n'est pas, ce n'est pas une météorite, c'est pas, voilà, il est là, il est l'enfant de Dieu, il est le Fils de Dieu, pour que nous devenions ce que nous sommes. Cette parole formidable à tous ceux qui l'ont reçue. Et ça, c'est aussi une aventure inouïe où Dieu, comme dans l'aventure de Jésus, se limite, quoi. On peut ne pas le recevoir. On peut ne pas le recevoir. C'est là où c'est une aventure. Le Dieu n'est pas tout-puissant. Ce Dieu n'est pas tout-puissant. Ce Dieu se propose, ce Dieu, puisque et si il est la tendresse infinie, il ne peut que se proposer. Alors, à ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir. Il donne le pouvoir. C'est eux qui reçoivent ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'une certaine manière, c'est tellement surprenant, et c'est ça la vraie bonne nouvelle. Je peux décider de ma naissance. Et vous vous souvenez bien de l'affaire de Nicodème. Si tu ne redeviens pas un petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume. C'est notre décision. C'est notre décision. Se mettre à la suite de Jésus, devenir nous-mêmes, aller révéler le don de ce qui est en nous. Voilà. Donc c'est une vision de Saint Jean. Saint Paul a une autre approche de ce qu'est pour lui vraiment ce grand éclat d'une superbe bonne nouvelle. Et très souvent, on le voit quand vous lisez les lettres de Paul. L'élément fondamental qu'il va dire, Christ est mort pour nos péchés. Dont il nous libère de notre péché. Il nous libère de tout ce qui ne va pas. Hein, qui va mettre sous cette espèce d'affaire de péché. Donc chacun de nous, d'une certaine manière, nous faisons l'expérience de c'est quoi notre bonne nouvelle. C'est quoi ce qui fait cette grande aspiration de notre existence, hein, ce pourquoi nous sentons que nous aspirons à quelque chose, et qui trouve son apaisement, son aboutissement, sa complétude dans la rencontre, l'accueil de Jésus, c'est-à-dire l'expérience de la fiance, hein, l'expérience de la foi. Et ça, c'est une vraie... C'est l'aventure de l'Évangile. Comment est-ce que tout ça se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? C'est l'aventure de la fiance. Croire. L'accueillir, entrer en relation avec lui. Et alors, fort de cette approche-là, en se disant, mais c'est que il y avait dans Noël devait porter, parce qu'en plus de ça, c'est que les récits liés à Noël, c'est-à-dire ce qu'on appelle les récits de l'enfance dans les évangiles, sont tardifs. C'est-à-dire que pour avoir été capable d'écrire ça, il fallait avoir mûri de l'expérience chrétienne, de l'expérience communautaire, de l'expérience ecclésiale. Il a fallu vivre et pour essayer d'écrire les évangiles de l'enfance. Hein, vous le savez bien que, bien sûr, Jésus n'est pas né le 25 décembre, qu'on ne sait rien du tout de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Les récits qui sont là sont des récits qui vont raconter les véritables expériences que font les disciples, que font les communautés chrétiennes. Espèce de ramassement, comment ça pourrait être, quoi, ça. Alors peut-être que Luc, qui a un cheminement un peu spécial, une proximité avec la lignée de Marie, a des choses, trimballe une tradition peut-être, enfin. Donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'on prenne en effet, dans l'évangile de Luc, le chapitre 2 de l'évangile de Luc. Ces passages qui nous semblent tellement connus, puisque quasiment à chaque fête de Noël, nous en avons le récit à la fête de Noël, au cours de la liturgie. Et j'ai eu cette espèce de conviction que c'était pas tellement, c'était un récit très construit en fait, plutôt que une anecdote qui essayait de, voilà, cette affaire. Bon. Alors on y va, donc chapitre 2, hein, le récit de la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle pour Luc, pour les communautés pauliniennes, hein, aussi? Comment résumer l'évangile de façon illustrée et simple. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Et ce qui m'a intéressé, c'est que il y a des gens là-dedans, il y a plein de gens. On va essayer déjà de repérer les personnes qui sont là-dedans, les actions qui se déroulent et les lieux. Donc j'ai un peu trois choses là que j'ai envie de regarder. Les gens qui sont là-dedans, les actions et les lieux. Alors on a déjà, en ce temps-là, paru un édit de César Auguste. Donc on a déjà un premier personnage qui apparaît, César Auguste. Et c'est positionné, c'est que ça se joue dans un vrai temps. C'était au cours sous la présidence de François Hollande, et où le président des États-Unis était Obama. Voilà, on est là, on est dans un vrai univers important, quoi, où il se passe des tas de choses partout. On n'est pas exclu du monde, quoi. On n'est pas dans une aventure religieuse. On est dans le concret de la vie. Et ça, c'est déjà pas mal. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Voilà. Donc, on a du monde, et puis on essaye de cataloguer, de redire, de voir à qui on appartient, qu'est-ce qui se passe. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius, tiens, voilà un autre, Quirinius, était gouverneur de Syrie. Donc on approche aussi d'un lieu qui arrive là, hein, on positionne à la fois, on a de César Auguste, on passe à Quirinius, on a maintenant le gouverneur de la Syrie. Donc on a aussi des lieux réels, quoi, hein. Donc on est incarné sur la terre. Et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Voilà, alors on a aussi, hein, d'où est-ce que je suis? Ça, c'est aussi de grandes affaires. Hein. D'où est-ce que je suis? D'où est-ce qu'est ma lignée? De quelles habitudes est faite mes manières d'être, hein? Et ça, ou peut-être la peine, hein, d'essayer de savoir d'où ce qu'on vient, comment ça se passe. Voilà. Chacun dans sa ville. Et Joseph aussi monta de la Galilée. Donc on retrouve un autre lieu qui est la Galilée dans cette affaire. On se retrouve avec. Bon, on voit où c'est, hein, cette Galilée, voilà. Cette portion de Terre Sainte qui est là-bas, assez loin du centre religieux, méprisé un peu. Enfin voilà, c'est assez loin, quoi. On sent bien que c'est. On n'est pas à la capitale, voilà, on est ailleurs, quoi. Et même pas, il n'y a pas grand-chose d'important dans ce lieu-là. La Galilée. Donc il va monter de Galilée, de la ville de Nazareth. Voilà, on a une ville, Nazareth, pour se rendre en Judée. Voilà, maintenant, il voyage vers la Judée, dans la ville de David. Donc on a toutes sortes d'expressions là qui nous positionnent un monde réel. On a là des événements qui sont des événements. Bon, ils y vont pas forcément voter, mais ils se recensent, le recensement pour pouvoir voter, pour pouvoir, etc. Ils sont dans une vie sociale ordinaire d'un pays d'il y a 2000 ans. Hein. N'empêche qu'ils ont voulu positionner ces choses-là dans le concret de l'existence. Et puis donc, ils vont dans la ville de David appelée Bethléem. Alors, les noms aussi pourraient trouver. Hein, pourquoi ce Bethléem, hein? Vous savez tous le nom. Hein, ce que ça veut dire, ce Bethléem? Maison du pain. Hein, maison du pain, Bethléem. Voilà, toujours toute une symbolique, bien sûr. Voilà, il monte à la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Alors on repositionne là, une histoire d'Israël. Voilà, on se réfère à David, aux grandes lignées. Hein, voilà, bon. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Voilà. Donc voilà le positionner, hein, l'aventure de ce. On a déjà su des choses, hein, sur ce Joseph et cette Marie, voilà, qui est enceinte, qui attend un bébé, et qui sont en route. Ça, c'est formidable aussi, cet élément de ce déplacement, hein, où un essentiel de l'évangile, de cette bonne nouvelle se vit dans un déplacement.